Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec Céline, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une évidemment, J-1 pour l'affiche qui fait rêver deux pays, France-Maroc. Demi-finale tant attendue du Mondial au Qatar, attendue notamment par tout un peuple de l'autre côté de la Méditerranée. Nous serons dans une dizaine de minutes avec notre envoyé spécial à Casablanca où l'on retient déjà son souffle. Les Bleus, eux, affichent leur sérénité, mais avant ça, un autre billet pour la finale se joue dès ce soir avec deux ballons d'or sur le terrain entre l'Argentine de Messi et la Croatie de Modric. L'actualité plus tragique, c'est aussi cette mise en situation ce soir au domicile de Delphine et Cédric Jubilard, en présence donc du mari de l'infirmière disparue il y a près de 2 ans, lui qui clame son innocence, mais qui est aussi toujours le principal suspect. À suivre également Adrien Quatennens, vous le disiez, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Et l'Union européenne qui se dote d'une taxe carbone.
RTL plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, ce sera RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour la Vendée, où un fabricant de meubles a décidé de valoriser le bois des forêts calcinées par les incendies de l'été. À midi 20, RTL Midi, votre ville, à plonger dans votre quotidien. Aujourd'hui, jusqu'où faut-il gâter les enfants à Noël? Jusqu'où leur faire plaisir? Le Père Noël doit-il tout offrir?
Une orange.
Par exemple, on peut apprendre aussi la frustration pendant les fêtes, effectivement. On en parlera en tout cas avec le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Et puis juste avant 13h, LVT midi, Pascal, toi mon frère, je vous propose une petite fugue avec Maxime Le Forestier. Vous les avez ? Non ? Bon, c'est pas grave, ce sera avec Steven Bellery. Bah, c'est 2 titres de Maxime Le Forestier quand même. Toi mon frère, la petite fugue, non ? Toujours
bien
pas ?
Bien sûr, si. je connais bien. Je pensais simplement que vous alliez, que nous allions écouter un morceau de musique. Pour
non, parce
dire.
Que l'idée c'était d'aller vite, mais c'est pas grave. La question du jour sur notre site rtl.fr. Le gouvernement dégaine une prime de 100 euros pour ceux qui partageront leur voiture. Allez-vous faire, vous, du covoiturage ?
Pourquoi aller vite, chère Céline, alors que nous avons tout notre temps ?
Bah non, on a qu'une heure devant nous.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute, si vous êtes nantais, appelez-nous parce que pas de bus ni de tramway dans le centre-ville de Nantes. Demain, le soir du match, est-ce une bonne décision prise par la mairie de Nantes ?
Avant ça, la météo avec vous, Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Bon, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi ? Encore beaucoup de froid ?
Alors du froid certes, mais une après-midi calme. Ça sera un répit de courte durée, car dans la nuit, nous aurons l'arrivée de neige et de pluie verglaçante par la Bretagne.
Merci Claire, la météo complète à la fin du journal. 8 départements sont déjà actuellement en vigilance orange pour des risques de verglas, de neige également. Ce sera 28 départements demain, notamment l'Île-de-France. Des flocons qui sont d'ailleurs déjà tombés la nuit dernière dans les Monts d'Or, près de Lyon, 10 cm de neige. Et elle a tenu, notamment sur les routes, où il fallait donc être très prudent ce matin.
Dans les hauteurs, on avait plus de 10 cm, donc on a dû rouler doucement. Le temps que les dépanneuses arrivent, les dépanneuses, les chasse-neige et tout. Et ensuite, rouler doucement.
2 heures de retard, du coup, ouais. Très compliqué. Bah, en fait, je suis un peu déçu, du coup, de la préparation, l'anticipation par rapport à la métropole de Lyon, notamment. C'est vrai qu'il n'y avait rien qui était salé, pas déneigé. Surtout qu'ils avaient lancé qu'il allait neiger.
On a beau avoir des pneus neige et tout, le moindre virage, moi, je suis parti 2 fois de travers. Et ça fait peur à tout le monde, déjà à moi, mais les enfants qui traversent et tout. Donc, on était 10 à l'heure dans toutes les pentes en faisant attention au verglas et tout.
Propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL.
RTL Midi.
2 ans après la disparition de Delphine Jubilard, une mise en situation aura lieu ce soir à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, en présence de Cédric Jubilard.
Principal suspect dans cette affaire, c'est lui qui avait alerté les gendarmes pour signaler la disparition de sa femme, sortie, dit-il, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 pour promener leur chien. Cédric Jubilard, qui est aujourd'hui en détention provisoire, mais qui reviendra donc ce soir à son domicile, Valentin Larquier, et cela pour la première fois depuis son incarcération.
Oui, un retour sous très haute surveillance. La rue Yves Montand, où se situe la maison, a été bouclée. Les gendarmes ont aussi enlevé les fleurs, les bougies placées devant la maison en hommage à Delphine. Et le courant semble avoir été remis dans la maison pour la mise en situation de ce soir. Une mise en situation en présence de Cédric Jubilard, donc des principales, de ses avocats, des juges d'instruction, des enquêteurs et des avocats des parties civiles aussi. Tout le monde arrivera vers 20h pour une reconstitution de plusieurs heures. Les juges d'instruction veulent retracer la soirée où Delphine a disparu, vérifier les propos de Cédric Jubilard, ses déplacements, l'utilisation de son téléphone portable, mais aussi les cris entendus par certaines voisines. Les avocats de Cédric Jubilard assurent qu'il ne mimera rien d'autre que ce qu'il a déclaré au juge d'instruction. Depuis le début de l'affaire, il clame son innocence. Quant aux avocats des parties civiles, ils espèrent, eux, que ce retour dans la maison de Cédric Jubilard, s'il est coupable, fasse basculer le seul suspect de cette affaire.
Valentin Varquier à Cagnac-les-Mines dans le Tarn pour RTL. On reviendra sur cette affaire à midi 40, ce que l'on sait, les zones d'ombre qui subsistent. On fera le point sur l'enquête avec Patrick Tégéraud.
Dans l'actualité judiciaire, les 4 mois de prison avec sursis pour Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale.
Le député insoumis comparaissait lors d'un plaidé coupable aujourd'hui après avoir reconnu déjà publiquement avoir mis une gifle à sa femme dans un contexte de séparation. Il a accepté ce matin la peine proposée par le procureur, 4 mois de prison avec sursis donc et 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Son avocate, maître Jade Doucelin.
Le sentiment de M. Quatennens aujourd'hui, c'est ce qu'a indiqué Mme le procureur de la République, cette peine de 4 mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice. Celui d'un homme dont on sait qui il est, dont on sait que ce n'est pas un violent dans son couple, qui est, je le répète, un avertissement solennel et qui ne l'empêche pas, aucune décision n'a été prise en ce sens, de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif.
Maître Jade Doucelin, l'avocate d'Adrien Quatennens, propos recueillis pour RTL par Franck Hanson. On reviendra sur cette affaire dans le journal de midi et demi.
L'Union européenne mise sur le protectionnisme vert.
Les 27 ont en effet décidé d'adopter une taxe carbone aux frontières. Pour être clair, Sophie Joustin, l'objectif c'est de faire payer les importations les plus polluantes.
Oui, tous les produits importés dans les secteurs les plus polluants, par exemple la production d'acier, de ciment, d'engrais, seront taxés à leur entrée dans l'Union européenne. Les importateurs ne payeront pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais devront acheter des certificats, des droits à polluer en quelque sorte, qui couvriront les émissions de CO2 engendrées par la fabrication de ces produits dans leur pays d'origine. L'idée c'est d'arriver à une certaine équité entre les entreprises européennes et celles des autres pays moins strictes dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Car aujourd'hui, en Europe, les entreprises des secteurs polluants sont déjà soumises à des quotas d'émissions de CO2. Ce dispositif mettra donc tous les pays sur un pied d'égalité. Il a pour but de dissuader les pays de l'Union européenne d'importer, voire de délocaliser leur production. Un acier produit hors Europe sera soumis au même quota d'émissions de CO2 qu'un acier produit en Europe. Cette mesure doit entrer en vigueur pour une période test en octobre prochain, avec une application progressive à partir de 2026.
Sophie Jousselin pour RTL.
RTL, Coupe du Monde 2022.
J-1 avant la demi-finale des Bleus contre le Maroc.
Ce sera demain à 20h et à suivre sur RTL. Évidemment, rencontre historique entre deux nations qui se connaissent bien, des Français qui rêvent d'entrer dans l'histoire en conservant leur titre mondial et des Marocains déjà entrés dans l'histoire, eux, pour être les premiers Africains à atteindre ce stade de la compétition. On sera dans quelques minutes avec notre envoyé spécial Vincent Serrano à Casablanca pour vivre avec lui la ferveur qui s'est emparée du pays. Les Marocains qui, comme les Français, regarderont certainement ce soir l'autre demi-argent Argentine-Croatie à 20h, là aussi, avec sur le terrain deux monstres sacrés, deux ballons d'or qui ont pour la dernière fois l'occasion d'accomplir le rêve d'une vie, devenir champion du monde. On parle ici évidemment, Hugo Hamelin, de l'Argentin Lionel Messi et Messi plutôt, et du Croate Luka Modric.
Oui, absolument, deux génies du football, deux revanchards aussi. Hein. La Croatie a perdu la dernière finale de la Coupe du Monde en 2018. L'Argentine a perdu la précédente, celle de 2014. Ils étaient bien sûr tous les deux sur le terrain. Deux numéros 10 qui ont 35 et 37 ans, qui vont illuminer, on l'espère, de leur dernier feu cette rencontre, qui sera probablement la dernière dans une grande compétition pour celui qui sera éliminé ce soir. Alors on peut dire que le roi Léo a 7 ballons d'or et que le berger Modric seulement 1. Mais aujourd'hui, à Doha, leur profils sont similaires. Chacun dans sa sélection respective est à la fois le leader technique, le guide spirituel et le capitaine. Ils ont été rivaux en Espagne pendant des années, quand Léo Messi brillait à Barcelone et que Modric brillait au Real Madrid. Et ce soir, c'est leur dernier rendez-vous. L'Argentine, très populaire au Qatar, va encore remplir les tribunes de ciel et blanc, mais la Croatie, galvanisée par sa victoire face au Brésil, compte bien mettre son grain de sable dans l'ultime rêve de Léo Messi.
Hugo Hamelin, des envoyés spéciaux d'RTL au Qatar. Et cette première demi-finale, elle sera à vivre, elle aussi, évidemment, sur RTL dès 20h ce soir. La météo, on vous retrouve, comme promis, Claire Delorme. Attention, soyez prudents, il fait froid, très froid. 8 départements sont d'ailleurs actuellement en vigilance orange.
Exactement, principalement au nord, les températures fraîches, donc avec un ciel tout de même un petit peu plus lumineux, on va dire froide. Alors qu'en direction du sud, c'est certes beaucoup plus encombré, mais aussi beaucoup plus doux. Nous aurons un petit peu de pluie, principalement vers le Massif central, la Provence, le Languedoc également en direction de la région Rhône-Alpes, mais avec un risque d'avalanche accru au niveau des Deux-Savoies. Et donc pour les températures, elles sont positives, comprises entre 0 et 4 degrés pour la moitié nord et entre 5 et 15 degrés pour la moitié sud, localement 17 degrés vers le Pays Basque et la Corse. Merci Claire.
RTL Midi, un jour chez vous.
85
Vendée
85, un jour
Terre
chez
promise.
Vous. Chaque jour, l'info plus près de vous. Terre promise, effectivement. On pourrait saluer Brétignolles-sur-Mer, notamment.
Par exemple. Mais on va surtout saluer Mathieu Lopineau. Bonjour Mathieu.
Bonjour et bonjour à tous.
Vous nous emmenez donc en Vendée, on l'a compris aujourd'hui, où le fabricant de meubles Gautier a décidé de valoriser le bois des 36 000 hectares de forêt qui ont brûlé cet été en Nouvelle-Aquitaine. Il rachète donc les troncs calcinés pour en faire des meubles.
Oui, effectivement, je me trouve donc en ce moment dans l'usine de la marque à Chantonnay, c'est donc en Vendée. Ici, des camions livrent chaque jour, chaque matin, des troncs noircis par les flammes. David Soulard est le PDG de la marque Gautier.
C'est le bois que nous recevons actuellement, voilà. C'est du pin maritime qui arrive de la forêt des Landes, l'Andiras. Il arrive avec la partie de l'écorce qui est complètement carbonisée, qui est noire et qu'il faut enlever. Il est urgent de sortir ce bois de la forêt parce que il s'abîme extrêmement vite. Il commence à moisir, donc d'ici 6 mois, il sera plus utilisable. Donc en fait, on est dans une course contre la montre.
Déjà 800 tonnes livrées ici en Vendée. Alors, il y a énormément de marge, puisqu'on compte environ 4 millions de tonnes d'arbres brûlés à couper en Gironde.
Et c'est moins cher d'acheter des troncs brûlés pour fabriquer des meubles.
Alors oui, forcément, un tronc brûlé est donc moins cher, mais là, David Soulard doit aller le chercher, son bois en Gironde. D'habitude, il achète beaucoup plus local, dans un rayon autour de ses usines, dans la région Grand Ouest. Donc, le transport lui coûte ici plus cher, et en plus, il faut enlever davantage d'écorce sur le tronc.
Le bois est de moindre qualité au niveau périphérique, mais en cœur, c'est le même, en fait. La partie un peu plus longue, c'est la partie enlever l'écorce. On a la chance d'avoir un écorceur que tout le monde n'a pas. Donc, c'est en fait une grosse machine à laver qui permet d'enlever l'écorce brûlée. Le prix au départ de la forêt est à 20% moins cher. Par contre, du fait de la technicité d'extraction plus de la partie kilomètre, parce que d'habitude, on est plus proche, nous, on ne va pas à 300 kilomètres.
Mais alors, Mathieu, le fait que le bois soit brûlé, ça change rien à la qualité finale du meuble ?
Non, ça change rien, ça ne se voit pas. C'est ce que nous explique le patron de Gautier. Le bois brûlé est broyé en copeaux, mélangé à d'autres, puis transformé donc en mélaminé, des sortes de grands panneaux de bois compressés.
Donc finalement, dans tous les meubles qui sortent actuellement, il y a un petit peu de bois brûlé. Il y a à peu près 10 à 15% de notre volume actuel qui est en bois brûlé dans nos meubles.
Voilà, le bois est utilisé également dans le secteur de la papeterie ou encore comme bois de chauffage.
Merci beaucoup Mathieu Lopineau en Vendée donc pour RTL.
Et comme tous les jours après le journal, focus. Dans un instant, nous partons pour Casablanca au Maroc avec notre envoyé spécial Vincent Serrano qui va nous raconter la ferveur qui a envahi le pays à la veille de cette demi-finale historique contre les Bleus. A tout de suite.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire, avec beaucoup d'ambition, pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. Et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde, y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin.
Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, ce matin. Et alors que dans les rues marocaines règne une ferveur inhabituel depuis la qualification des Lions de l'Atlas pour cette demi-finale. Tout le monde attend le match qui opposera les Marocains demain soir à la France. On part justement dans les rues marocaines à Casablanca, pour être plus précis, pour retrouver notre envoyé spécial Vincent Serrano. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Bon, racontez-nous Vincent, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tous les commerçants s'y sont mis ? Tout le monde attend le match ?
Oui, tout le monde se prépare, notamment Amine qui est en train d'installer un pied devant son magasin. Pour y insérer un drapeau, c'est vraiment la première étape ici. Montrer les couleurs, vous avez même des vendeurs ambulants à chaque carrefour qui vendent des petits drapeaux, ou j'en ai croisé un tout à l'heure, des répliques de la Coupe du Monde en polystyrène. Amine, il faut se préparer.
Ben c'est spontané, c'est ça la beauté de la chose, c'est spontané. Après les victoires, tout le monde a envie de descendre, exprimer sa joie par rapport au drapeau, par rapport aux tenues de l'équipe nationale. Et ça fait plaisir, et ça fait plaisir, et ça c'est général pour tous les âges. On voit des enfants de 3 ans, 4 ans qui réclament la tenue à leurs parents, et ça fait plaisir à tout le monde.
On a assez de stock ?
Oui.
Alors ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Certains commerçants ne pensaient pas que l'équipe allait arriver en demi-finale. Rupture de stock. Mounir, lui, c'est bon. Il a son maillot, mais il a décidé d'aller un peu plus loin.
Vous parlez du match, là ? On s'organise, donc la ville, elle tourne pas réellement parce que tout le monde veut participer au match, veut supporter l'équipe physiquement. La plupart, on est sortis de nos boulots pour se mobiliser. Mes enfants sont toutes habillées en rouge, par exemple. L'école a pris des dispositions particulières pour leur permettre de regarder les matchs. Ça ne s'est jamais fait avant. J'ai pris toute la semaine de congé. Mercredi, oui, j'espère qu'on gagnera et qu'on vivra la même ambiance qu'on a vécue jusqu'à maintenant.
Vous l'entendez, on est très loin de prendre ici à la légère le match de demain face à la France.
Et puis il y a ceux qui rêvent de voir le match en vrai, Vincent, de s'envoler pour le Qatar.
Oui, alors ça, c'est l'étape d'après, hein, depuis ce matin, et c'est comme ça tous les jours. Vous avez des dizaines et des dizaines d'habitants qui patientent devant les locaux de la Royal Air Maroc. Pourquoi ? Parce que plus de 30 avions doivent acheminer les supporters jusqu'au Qatar. Les places sont chères, même si pour certains, elles sont gratuites. J'ai donc retrouvé devant le bâtiment Imen, qui patiente quand même depuis 8 heures ce matin, assise sur une chaise.
Ils sont en train d'écrire l'histoire, et nous, on est en train d'écrire nos souvenirs, parce que c'est un souvenir que je veux avoir d'ici 30 ans, inchallah, et dire j'étais là pour le Maroc le jour où il a battu la France en demi-finale.
Ouais.
On espère donc faire partie des chanceux.
Et on espère avoir nos places. Normalement, il y a assez de places pour tout le monde. Donc, il faut juste attendre.
Et chaque personne qui ressort est applaudie par ceux qui attendent. On brandit le billet au ciel et on croise les doigts, bien sûr, pour une victoire demain.
Et quoi qu'il arrive, Vincent, les Marocains ont le sentiment, de toute façon, qu'ils ont déjà gagné.
Mais en face de moi, sur le trottoir d'en face, il y a un écran géant qui diffuse en boucle des images de l'équipe nationale. Un mot à la fin, merci les Lions de l'Atlas. Et quand vous voyez ça, vous vous dites que oui, ils ont la sensation déjà d'avoir gagné. Écoutez ce que m'a dit Hamid ce matin.
Non, on a déjà gagné. De toute façon, on attend. Moi personnellement, j'attends plus rien.
On a déjà
de cette
gagné
équipe. De toute façon, on va rester jusqu'au samedi, on va rester jusqu'au dimanche, jusqu'à la fin. Ça, alors, on va rester deux. De toute façon, il nous reste deux matchs. Comme l'Argentine, comme la Croatie, tout le monde aura deux matchs. Le demi-finale, c'est vraiment le maximum. On n'a plus rien à perdre. Ça va nous aider pour affronter la France demain. Ça va nous aider parce qu'on n'a plus rien à perdre.
Vous l'aurez compris, c'est que du bonus aujourd'hui pour les Marocains ici à Casablanca et dans tout le pays. Si le rêve éveillé peut continuer, tant mieux. De toute façon, il n'arrive plus à dormir.
Vincent Serrano à Casablanca pour RTL. Prenez des forces quand même, Vincent. Essayez de dormir un peu parce qu'on aura besoin de vous ce soir et demain, évidemment.
Si vous avez des parents ou des grands-parents qui sont nés avant la guerre, la dernière, ils vous rapportent sans doute qu'à Noël, ils avaient une orange ou un sucre. Eh bien, Noël approche, sa magie aussi, mais jusqu'où gâter ses enfants ? La frustration a-t-elle sa place pendant les fêtes ? On va en parler tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
petit papa Noël, quand tu descendras du ciel.
Bien joué.
Inoubliable. Tous les parents ont chanté ça à leurs enfants le soir. C'est peut-être le plus joli cadeau de Noël de chanter ça à son enfant.
Je peux vous dire que le mien est gâté. Proche de Noël, donc, alors que parents et grands-parents ne demandent justement qu'à gâter enfants et petits-enfants. On s'interroge aujourd'hui. Jusqu'où gâter justement les petits ? Le Père Noël doit-il avoir une hôte extensible à l'infini ? Bonjour Stéphane Clergé.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, auteur du livre L'intelligence spirituelle de votre enfance aux éditions Le Duc. D'abord, est-ce qu'il faut laisser la magie opérer jusqu'au maximum en cette période de fête ? Est-ce qu'il faut gâter les enfants le plus possible, ou est-ce qu'il faut aussi leur apprendre un petit peu la frustration ?
Oh bah, s'il y a un moment où il ne faut pas leur apprendre la frustration, c'est bien Noël, ça n'a pas grand intérêt. La frustration, ils la découvrent toute l'année. Non, Noël, c'est évidemment un moment de fête pour les enfants et pour toute la famille. Entendons-nous, gâter, ce n'est pas gâter uniquement sur le plan matériel, c'est gâter par notre présence de parents, de grands-parents, d'oncles, de tantes. Et gâter, c'est participer à l'organisation, faire l'arbre avec les enfants, décorer la maison, se donner la peine de faire une belle table. C'est tout ça, gâter notre enfant, c'est-à-dire
faire de cette période une fête.
Mais c'est pas exactement ce qu'ils attendent forcément. Ce qu'ils attendent, c'est des cadeaux. Alors, enfant, on est d'accord, on va jusqu'à 0 à 12 ans, là. On est sur ce registre-là.
Les enfants attendent des cadeaux, mais ils attendent aussi cette fête. Évidemment, c'est plus facile de dire « je veux des cadeaux » parce que c'est plus simple à élaborer. Mais ils sont beaucoup sensibles à la décoration, à l'ambiance. Et quand ils racontent Noël, ils racontent pas que les cadeaux, ils racontent la fête.
Est-ce qu'il faut écouter leurs demandes ?
Il y a des demandes.
Je parle pour les cadeaux. Hein.
Pour les cadeaux.
Quand ils demandent un vélo, que sais-je, ou un parachute.
Un parachute.
Oui, quoi.
C'est étonnant comme liste, mais pourquoi pas
par exemple, un garçon qui demande une poupée, une cuisine. Voilà. Est-ce qu'il faut écouter ce qu'il demande ?
Ce qui est intéressant, c'est en tout cas d'écouter leurs demandes, pas forcément d'y répondre immédiatement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils y pensent, qu'ils y rêvent. Mmh. C'est tout le mois d'avant. Il y a le calendrier d'avant, mais il y a aussi toute cette espoir, le fait d'écrire ce qu'ils ont envie et de discuter avec eux, mais qu'est-ce que tu ferais avec ça, qu'est-ce que tu ferais avec ça, qu'ils imaginent, qu'ils élaborent. C'est tout ça qui est intéressant. Le cadeau proprement dit, oui, il y en a un ou deux qui vont vraiment les intéresser et les autres qui vont rester dans leur coin. C'est pas tellement ça le plus important.
Est-ce qu'il faut équilibrer entre un livre, entre un jouet, entre un costume ou est-ce qu'on fait comme on veut ?
Je crois qu'on peut faire comme on veut. Et de toute façon, il y aura un livre parce que ça coûte pas très cher, il y aura un costume parce qu'il y a toujours une grand-mère qui aime déguiser son petit. Quand il y a une grande famille, il y en aura un peu pour tous les goûts. Donc oui, la diversité, pourquoi pas. Il y a quand même le beau cadeau, le truc auquel le gamin tient, et on sait que c'est important pour lui. Et donc ça,
aujourd'hui,
ça,
c'est souvent le téléphone portable, c'est souvent un objet numérique.
Vous venez nous dire 0-12 ans, Pascal.
0-12 ans, je pense qu'à 11-12 ans, la demande est forte d'avoir des téléphones, hein, je pense.
Vous avez raison, Pascal, mais vous avez raison, madame, il ne faut pas y répondre.
Alors d'accord, là, pas de téléphone. Téléphone avant 12 ans.
Non, ça n'a pas d'intérêt.
C'est une bonne réponse. Ça vous a surpris ma demande de parachute ? C'est un enfant qui voudrait faire.
C'est-à-dire que demander si quelqu'un veut un parachute ou est-ce qu'il faut offrir une poupée à un petit garçon ? Moi, j'ai envie de lui dire s'il en rêve, oui.
Je ne veux pas parler de mon cas personnel, mais ça posait problème à Noël parfois quand je recevais une poupée ou une cuisine et que j'étais enfant.
Bon, on prendra le temps de débriefer tout ça.
L'avantage, c'est de jouer avec la cuisine ou la poupée de la sœur, s'il y a une famille.
Alors, je suis d'accord avec vous, mais là, ma sœur s'appelait Alain. Donc, c'était compliqué.
Ça a l'air compliqué, oui, dans la famille pro. Est-ce que, quand même, vous dites qu'il ne faut pas surtout casser la magie de Noël ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de donner, j'allais dire, de mauvaises habitudes en couvrant les petits de cadeaux à ce moment-là ?
C'est une parenthèse. C'est pour ça que, vraiment, le coût des cadeaux, ce n'est pas le plus important dans Noël. Vraiment, il faut se calmer un peu avec les cadeaux. C'est vraiment pas ça qui est important pour le développement de l'enfant, pour la joie de Noël. C'est vraiment la fête, faire des jeux. J'entendais le parachute, on ne va pas lui acheter un parachute, mais s'il en a l'âge, pourquoi pas lui offrir une journée en parachute ? Ça, c'est plus pour les ados. L'idée, c'est vraiment de se réunir. Ce qu'ils adorent, les enfants, c'est quand il y a du monde autour d'eux. Donc, si la famille est petite, on fait venir les amis. C'est vraiment cet esprit-là, Noël.
Un moment de partage.
Avant-guerre, il n'y avait pas de cadeaux, mais les gens se réunissaient autour de l'église. Il y avait des processions, tout le village était réuni. C'est ça, les souvenirs de Noël. C'est être ensemble et de se tenir chaud parce que c'est le moment où il fait très froid.
Je vous le confirme.
Non, mais c'est vrai, c'est assez positif. C'est une question peut-être indiscrète, monsieur Clerget, mais vous avez des enfants vous-même. Et vous leur offrez quoi ?
J'espère offrir tout ça.
D'abord, c'est le Père Noël. Et puis, on ne va pas donner la liste.
J'offre la déco, le repas, l'ambiance. Non,
ils sont grands, sans doute, aujourd'hui.
Il y a un petit, encore un petit. Donc, il a des demandes.
Oui,
des demandes extravagantes.
Mais justement, ça m'intéresse. Quelle demande il a ?
Il veut carrément le quad électrique. Vous savez, les quads. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait l'âge de conduire un quad.
Quel âge il a ?
9 ans.
Et vous allez. Alors, c'était ma question. Est-ce que vous allez lui offrir le quad ?
Je crois pas que le Père Noël lui apportera.
Évidemment. Je crois pas. Bien sûr, un quad électrique à 9 ans. Donc, vous lui dites dans ces cas-là que le Père Noël.
Il vaut mieux faire un maximum de demandes pour être sûr d'en avoir certaines exaucées.
Et il comprend ?
Oui. Ils comprennent bien ça, oui.
Bon.
Enfin, ils sont bien éduqués. Mais ils insistent quand même.
Bah, merci, monsieur Clerget. Merci.
Et puis, désolé par avance au fils qui n'aura donc pas, on l'a compris, son quad électrique dans deux semaines.
Le Père Noël, cette année, n'a plus
c'est
de quad électrique. En plus, électrique. Donc, il aurait été encore un charbon, mais un quad électrique. Ça, c'est pas possible. Il est 12h28. L'info revient dans une seconde. Nous sommes déjà un peu dans Noël. A tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h31.
RTL Midi, le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et c'est donc l'heure de votre grande édition, Céline.
Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Le député insoumis comparaissait dans une procédure de plaider coupable. Aujourd'hui, son retour en politique est désormais suspendu à la décision des insoumis. Le froid qui s'abat toujours sur la France, 28 départements seront en alerte, neige, verglas demain, et une grève à GRDF qui tombe mal et qui prive un millier de Français de chauffage alors que les températures dégringolent. Veillée d'armes pour les Bleus, la demi-finale France-Maroc, ce sera demain soir. Ferveur dans tout un pays qui rêve d'atteindre pour la première fois une finale de Coupe du Monde, ferveur à laquelle les Bleus de Didier Deschamps opposent leur sérénité. Que s'est-il passé il y a 2 ans au domicile de Delphine et Cédric Jubilard après la disparition de l'infirmière? Une mise en situation aura lieu ce soir au domicile du couple en présence du mari Cédric Jubilard qui clame son innocence mais qui reste toujours le principal suspect dans cette affaire. On y reviendra longuement après le journal. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture à LVT Midi. Aujourd'hui, Steven Bellery viendra nous parler d'un grand nom de la chanson française, Maxime Le Forestier. La question du jour à présent sur notre site rtl.fr, alors que le gouvernement dégaine une prime de 100 euros pour donner un petit coup d'accélérateur au covoiturage. Allez-vous, vous, faire du covoiturage pour bénéficier de cette prime?
C'est une bonne question parce qu'il faut être assez ami quand même, parce qu'avoir tous les jours quelqu'un en voiture...
Pas du tout. Pas besoin d'être ami. Vous allez écouter le reportage de Nicolas Bobby à Rennes dans quelques minutes.
Parce que c'est un temps où on aime bien être seul parfois à la voiture. On passe des coups de fil, on appelle les uns et les autres. Donc si vous êtes avec d'autres gens et si c'est tous les jours, c'est pas forcément
agréable.
Mais
là, vous allez voir, c'est comme des lignes de bus. C'est des lignes de covoiturage. Vous allez écouter le reportage, c'est très intéressant.
En tout cas, on pourra parler de tous ces sujets à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. 32-10, comme vous le savez. On covoiture d'une certaine manière tous les deux ensemble entre 12h et 14h.
Et parfois vous lâchez votre téléphone, ce qui signe que c'est pas si désagréable. Un mot du temps avec vous, Claire Delorme. Il fait froid, on l'a dit. Hein.
Exactement. Et si vous êtes en voiture, je vous prierai d'être prudent en direction de la Bretagne et la Normandie. Toujours placé en vigilance orange, neige, verglas. Partout ailleurs, ça reste très calme, mais un répit de courte durée avant justement l'arrivée de la neige et des pluies verglaçantes dans le courant de la soirée.
Et je précise parce que Damien Béchiot, qui est notre réalisateur, a raison quand je parle de téléphone. C'est avec le Bluetooth, bien évidemment. On ne tient pas son téléphone dans la main, c'est parfaitement interdit.
Très bien. C'était important de le rappeler, Pascal. Vous êtes prudent, on le sait. Merci beaucoup, Claire. On vous retrouve, vous, à la fin du journal pour une météo complète.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
4 mois de prison avec sursis pour Adrien Quatennens, le député insoumis condamné ce matin pour violence conjugale. Une gifle infligée à son épouse dans un contexte de séparation. En retrait de la vie politique depuis la plainte de celle-ci, il comparaissait donc dans une procédure de plaidé coupable, Franck Hanson.
Oui, le député lillois en jean et blouson noir est entré et sorti du tribunal par une porte dérobée sans rien laisser transparaître à l'énoncé du jugement face à son épouse. Selon ses proches, il était pressé que cette histoire se termine. Pour son avocate, maître Jade Doucelin, cette sanction qui reconnaît une gifle, des messages SMS mais pas de violence répétée, ne l'empêche pas d'envisager un retour politique.
Cette peine de 4 mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice, dont on sait que ce n'est pas un violent dans son couple, il est satisfait que la justice ait entendu ce qu'il avait à dire, entendu sa vérité et qu'aujourd'hui elle ne l'ait pas empêché de reprendre son travail, son mandat et sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Une peine néanmoins plus lourde qu'une simple amende qui n'est pas anodine pour l'ancien coordinateur de la France Insoumise. À l'entrée du palais de justice, des militantes féministes ont réclamé sa démission.
Adrien Quatennens est un agresseur et aucun agresseur n'a sa place à l'Assemblée nationale et nous demandons ainsi fermement sa démission.
À la sortie, une poignée de sympathisants et élus LFI espèrent eux un retour d'Adrien Quatennens pour les prochains débats parlementaires.
Franck Hanson à Lille donc pour RTL. Adrien Quatennens qui est, pour l'instant, on le rappelle, exclu des activités de son groupe parlementaire à l'Assemblée. LFI a toujours dit qu'elle attendait les conclusions de la justice avant de donner une position sur son éventuel retour. Pour la première fois depuis son incarcération, Cédric Jubilard reviendra à son domicile ce soir, accompagné évidemment des gendarmes, pour une mise en situation 2 ans presque jour pour jour après la disparition de sa femme, Delphine Jubilard, dont on a perdu la trace dans la nuit du 15 au 16 septembre 2020, décembre 2020. Son mari, Cédric, qui avait signalé la disparition, est le principal suspect dans cette affaire. Il a toujours dit, lui, qu'elle était sortie promener leur chien. On y revient en longueur après le journal.
RTL Midi. La vague de froid s'installe, vous en avez très certainement, vous le sentez lorsque vous sortez le matin. 28 départements seront ainsi placés en vigilance, neige, verglas, demain.
Et notamment l'Île-de-France. Et avec ces températures qui dégringolent, le chauffage est évidemment crucial. Sauf que plus de 10 000 agents de GRDF sont en grève depuis le début du mois. Conséquence directe, 1 millier de clients sont actuellement privés de chauffage. C'est le cas de Sarah que vous avez rencontré ce matin à Paris, Simon Marseille.
Oui, Sarah qui n'a pas quitté sa polaire depuis hier soir. Elle a le nez rougi par le froid. Dans son salon, le thermomètre affiche 12 degrés et dans ces conditions, pas facile de s'adapter.
Je me suis habillée avec mes habits de ski, j'ai mis 2 pantalons, je marche dans l'appartement avec mes après-ski, une polaire. Je me suis lavée avec une bassine d'eau que j'avais fait bouillir.
À l'ancienne.
Exactement, j'ai fait à l'ancienne. Là, je remplis la bouilloire.
Petit thé en perspective pour se réchauffer.
Voilà.
Est-ce que ça a été suffisant pour vous réchauffer ?
Non, honnêtement, c'est pas suffisant. Il fait extrêmement froid dehors. Et là, ce matin, quand je me suis réveillée, il faisait 12 degrés dans l'appartement. Donc, c'est un petit peu difficile. Je me suis vue travailler sur mon clavier d'ordinateur avec des gants.
Alors heureusement, les agents sont passés en fin de matinée pour rétablir le gaz. Le thermomètre remonte peu à peu chez Sarah, mais voilà, elle préfère déjà se préparer à d'autres éventuelles coupures. Pour Noël, elle a commandé une grosse bouillotte sous le sapin.
Simon Marseille pour RTL.
Aider les Ukrainiens à passer l'hiver, c'est tout l'enjeu du sommet pour l'Ukraine qui se tient aujourd'hui à Paris.
Alors que les infrastructures sont bombardées massivement par les forces russes sur tout le territoire ukrainien, Emmanuel Macron a confirmé ce matin l'engagement de la France auprès de Kiev et annoncé de nouvelles aides.
Ces frappes qui visent ouvertement les populations et les infrastructures civiles, ces frappes dont la Russie avoue ouvertement qu'elle ne vise qu'à saper la résistance du peuple ukrainien, constituent des crimes de guerre. Ces actes sont intolérables et ne resteront pas impunis. Et j'espère que nos engagements collectifs seront à la hauteur des enjeux et vous aideront à faire face aux besoins les plus urgents de cet hiver. Nous allons, en plus de ça, ajouter une contribution exceptionnelle de 76,5 millions d'euros dans le domaine de l'électricité et de l'énergie. 63 nouveaux générateurs électriques de haute puissance et plusieurs transformateurs en complément des 100 déjà livrés en novembre, mais également des financements pour l'eau, l'aide alimentaire, la santé, ce qui portera un effort total, en plus de ce qui a déjà été fait, à 125 millions d'euros d'aide d'urgence.
Emmanuel Macron, donc ce matin, lors du sommet pour l'Ukraine qui se tient à Paris. Le Parlement européen lui retire sa fonction de vice-présidente à Eva Kelly, la grecque dont on a parlé hier.
C'est la moindre des choses, elle est en prison.
Elle est écrouée, effectivement, puisqu'elle est impliquée dans un scandale de corruption présumé qui éclabousse le Parlement européen et derrière lequel on a la mainmise du Qatar.
100 euros de prime pour ceux qui partagent leur voiture. On en parlait à l'instant. Le gouvernement veut donner un nouveau coup d'accélérateur au covoiturage.
Un moyen de limiter les embouteillages et la pollution. L'exécutif entend donc verser 100 euros aux nouveaux inscrits qui réaliseront 10 trajets en 3 mois sur les plateformes de covoiturage du quotidien. Des plateformes comme Ecov, qui anime des lignes de covoiturage, notamment à Rennes, Nicolas Bobby.
C'est aussi simple que de prendre le bus. La voiture devient un transport en commun et c'est gratuit. La ligne comporte 5 stations. Justine Grandjean de la société Ecov.
On a installé des arrêts de covoiturage, donc à des endroits où il y a un flux important de véhicules et de personnes qui sont seules en voiture. Et on a une application mobile qui va permettre de mettre en relation en temps réel conducteurs et passagers. Sur les trajets de domicile-travail, c'est là qu'il y a le plus d'embouteillage et là où le taux de remplissage des véhicules n'est que de 1,3%.
À Saint-Grégoire, 2 minutes après avoir fait sa demande sur l'application des transports de Rennes, une voiture s'arrête devant Kédiane, développeur web, qui attend sous une eau aux bêtes au toit rose.
Bah, ça aide pour l'écologie aussi, donc on est clairement gagnant. J'ai un véhicule aussi, mais je préfère covoiturer. En même temps, ça fait aussi des économies pour mon budget, tout simplement.
La conductrice Karen touchera 1 euro pour ce passager.
Partager mon trajet déjà avec quelqu'un, c'est plus sympa, et puis bah, éviter qu'il y ait un petit peu trop de voitures sur la route.
La ligne de covoiturage n'est pas ouverte aux enfants. En moyenne, un véhicule Merci. S'arrête toutes les 5 minutes.
Nicolas Bobia à Rennes pour RTL.
RTL, Coupe du Monde 2022.
Les Bleus, à deux marches d'un exploit historique, conservaient leur titre mondial, ce qui n'est plus arrivé depuis le Brésil qui avait gagné en 58 et 62.
Mais avec pour cela, certain
Pelé.
Exactement.
Bien sûr, il avait 17 ans, Pelé. Bah, attendez, quand même. Mais pour cela, il faudra s'imposer quand même. Ça, je veux dire, c'est juste le. C'est, d'ailleurs, on espère qu'il va bien, mais c'est juste le meilleur joueur de football de tous les temps, quand même, Pelé.
Bah oui, c'est pour ça que je voulais vous le signaler.
Garincha, Vava, une équipe exceptionnelle. Mais pour cela, il faudra donc s'imposer demain soir face au Maroc.
Match qui est déjà historique, lui, entre les deux pays qui se connaissent bien, puisque les Marocains sont les premiers Africains à atteindre ce stade de la compétition, porté par tout un pays, une ferveur. Donc Nicolas Georgerot, à laquelle les Bleus vont opposer, eux, leur sérénité et leur maîtrise.
Oui, la matinée a été lancée par la prise de parole du sélectionneur marocain Walid Regragui. Discours offensif, plein d'envie, dans la veine de ce parcours féerique. L'Espagne, le Portugal ont été écartés depuis les huitièmes de finale. Alors, pourquoi pas la France ?
Quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si t'as pas faim à ce moment-là, on est une équipe ambitieuse. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Il faudra être fort pour nous sortir de la compétition. Nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Tout le monde dit qu'on va être fatigué, on va pas être fatigué. Tu peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué.
Il y a bien quelques blessés, notamment en défense, rien de rédhibitoire, dit le sélectionneur marocain, alors qu'on a bien senti dans les propos des champions du monde, dont Hugo Lloris, le capitaine, cette volonté de garder la tête froide, de ne pas se laisser emporter par les émotions.
La réalité, c'est que nous sommes dans notre bulle depuis le début de cette compétition et on n'a pas forcément ni le recul, ni toutes les informations de ce qui se passe à l'extérieur. Dans l'approche, il faut garder cette sérénité. Comme tous les joueurs concernés sur ces demi-finales, on est tous excités et on a tous à cœur de représenter notre pays de la plus belle des façons.
Le stade de 65 000 places sera aux deux tiers, voire aux trois quarts en faveur du Maroc. Les Bleus s'y préparent avec cette ambiance qui s'annonce enfiévrée et bouillante.
Et ça, ce sera évidemment demain à 20h et à vivre avec vous, Nicolas Georgerot. Vous vouliez ajouter quelque chose,
oui,
Pascal ?
Oui, une petite précision, vous avez dit atmosphère bouillante. C'est vrai qu'on a froid dans les stades, Nicolas, et que les gens sont couverts, il y a 14-15 degrés le soir, et qu'en plus il y a la climatisation, que vous avez froid ?
C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a, ça dépend des stades, mais notamment le stade Al Bayt, où on était en quart de finale et où il y a eu plusieurs rencontres, la clim était assez forte, et c'est vrai aussi que les températures ont un petit peu baissé au Qatar, et les gens se couvrent, et on fait bien attention de ne pas attraper froid.
De quoi se réchauffer peut-être ce soir avec l'autre demi-finale, match qui s'annonce là aussi très plaisant pour les yeux, avec deux ballons d'or sur le terrain, l'Argentine de Messi face à la Croatie de Modric. Ce sera à 20h et à suivre aussi sur RTL.
Et on rêve évidemment d'une finale entre la France et l'Argentine, parce que ce serait une plus belle affiche, me semble-t-il, plus prestigieuse que France-Croatie. Un mot de Formule 1 à présent, puisqu'un Français est nommé à la tête de Ferrari.
16 ans après Jean Todt, c'est Frédéric Vasseur qui va prendre les rênes de la célèbre écurie italienne, avec un défi de taille. Isabelle Langer, remettre la voiture rouge en pole position.
Oui, c'est un défi de taille pour l'ingénieur français de 54 ans spécialisé en sport mécanique. Il n'était d'ailleurs qu'un étudiant quand il a fondé dans les années 90 l'écurie ASM qui est devenue plus tard ART Grand Prix. Il y a dirigé de futures stars de la Formule 1 comme Lewis Hamilton, Sébastien Vettel ou encore George Russell et un certain Charles Leclerc, le pilote phare de la Scuderia. Le Monégasque a d'ailleurs été titré avec ART avant de faire ses débuts en F1 sous la direction de Frédéric Vasseur chez Sauber en 2018. Car oui, depuis 5 ans et demi, le natif de Dravel en région parisienne avait pris la tête de l'entreprise helvétique qui roule sous le nom d'Alfa Romeo. L'écurie la moins compétitive du plateau, quand il l'a prise en main, a terminé cette saison 6e du championnat. Chez Ferrari, on attend surtout de Frédéric Vasseur qu'il redonne ses lettres de noblesse à la Scuderia. Les Rouges espèrent un titre chez les pilotes depuis 2007 et 2008 chez les constructeurs.
Isabelle Langer pour RTL. La météo, on vous retrouve Claire Delorme, on en parle depuis le début de ce RTL midi. Il fait froid, il va continuer à faire froid.
Exactement, surtout concernant le tiers nord du pays où le thermomètre ne dépassera pas les 4 degrés. Il fera 1 degré à Paris, 0 degré à Metz, 3 degrés à Besançon, alors que dans la moitié sud, eh bien, ça sera quand même beaucoup plus doux, compris entre 5 et 15 degrés, voire encore 17 degrés dans le Pays Basque, ainsi qu'au niveau de la Corse. Côté ciel, une France coupée en deux, avec des éclaircies, en tout cas un ciel beaucoup plus lumineux pour les régions situées au nord de la Loire. Partout ailleurs, il faudra composer avec de la grisaille et encore eh bien, quelques pluies faibles qui vont circuler vers le Massif central, Provence, Languedoc-Roussillon et surtout vers la région Rhône-Alpes avec encore un risque d'avalanche accrue au niveau des Savoies.
Merci beaucoup Claire Delorme.
L'affaire Jubilard dans une seconde, reconstitution de ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Nous serons avec Patrick Tégéraud.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Près de 2 ans, un mystère qui reste entier après la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Pas de corps, pas de scène de crime, pas de preuves non plus. Ce soir, les juges d'instruction en présence de Cédric Jubilard, principal suspect dans cette affaire, seront au domicile du couple à Cagnac-les-Mines pour une mise en situation. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça fait près de 2 ans que vous suivez cette affaire. On voulait donc faire le point avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on sait exactement de ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit du 15 au 16 décembre 2020, nuit de la disparition ?
En fait, de façon certaine et confirmée, on ne sait qu'une seule chose. Et encore, cela ne concerne que la fin de la nuit. À 4h09, Cédric Jubilard appelle les gendarmes en sanglotant pour signaler la disparition inquiétante de son épouse Delphine. Tout le reste, de la soirée ou de la nuit, c'est le suspect, lui seul, qui peut en parler. Alors, il y a bien les enfants, mais ils sont bien jeunes. La petite fille est un bébé et le petit garçon a 6 ans. Alors, Jubilard raconte qu'il s'est couché à 22h30. Son fils et Delphine sont venus lui faire un dernier câlin. Ensuite, il dort jusqu'à ce que le bébé perde sa sucette vers 3h30. Et qu'il ne trouve plus Delphine. Mais le petit garçon parle d'une dispute vers 23h. Des voisines ont entendu des cris peu après. Des éléments qui seront rejoués ce soir par des plastrons, des gendarmes qui joueront les rôles de Cédric et de Delphine. Une mise en scène dont Cédric sera le spectateur. Car il n'est pas obligé d'y participer. Mais son comportement sera scruté, enregistré, interprété par les gendarmes.
Il y a des éléments matériels troublants, Patrick. Cette paire de lunettes, cassées notamment.
Oui, mais comme la couette, un temps lavée ou l'usage du téléphone portable de Jubilard, il ne prouve pas grand-chose. Pour les magistrates, ces lunettes de Delphine trouvées brisées sont un signe de lutte. Or, il semble qu'elles aient été cassées bien avant cette soirée. Le podomètre du téléphone de Cédric aussi est considéré comme à charge. Il n'aurait pas cherché sa femme. Or, le podomètre se déclenche à la mise en marche du téléphone à 3h53 quand Cédric commence à appeler Delphine au téléphone. De 3h53 à 4h, il fait 46 pas. Puis, entre 4h et 5h du matin, 255 pas. Il a donc parcouru au total plus de 200 mètres dans une maison de 100 mètres carrés. Ça aussi, ça se discute.
Et puis, il y a la question du téléphone de Delphine, Patrick.
Alors ça, c'est un mystère dans le mystère. Il se serait activé plusieurs fois dans la nuit. Des activations qui nécessitent une action humaine, selon les expertises. Et une dernière expertise en septembre établit que le téléphone de la disparue est resté dans un périmètre proche du domicile. Pour l'accusation, c'est évident, Jubilard a gardé le téléphone et l'a activé. Cédric, lui, comme toujours, nie.
On sait que ce couple était en instance de séparation.
Oui, ils étaient même en instance de divorce. La belle infirmière reprochait au peu vaillant plaquiste son laisser-aller et sa passion pour la fumette. Mais pour lui, c'était la femme de sa vie. Il l'a dit à sa mère que si elle le quittait, il la tuerait, qu'on ne retrouverait jamais son corps. Un mot de colère lourdement interprété aujourd'hui. Mais quand il appelle une amie Delphine au petit matin de la disparition, il lui dit en substance qu'il faut qu'elle se manifeste vite. Sinon, ça va faire mauvais genre devant le juge pour la garde des enfants qu'elle souhaitait exclusive.
Mais même s'il n'a jamais varié dans ses déclarations et qu'il n'y a toujours, on le répète, aucune preuve dans cette affaire, Cédric Jubilard reste le coupable idéal.
Ah oui, il a le mauvais rôle. C'est un homme taciturne, peu apprécié, marginal. Mais quand on considère la procédure et le travail gigantesque des enquêteurs pour fermer les autres pistes possibles, on a l'impression que ce travail a été fait de façon un peu systématique, comme des formalités, mais que le seul suspect dans le collimateur de la justice a toujours été Cédric Jubilard. Faute de corps, de preuves, de scènes de crime, l'accusation ne peut plus espérer désormais que des aveux. Mais ça fait 18 mois que Cédric n'a pas craqué.
Merci beaucoup Patrick Tégéraud, et on suivra.
Affaire évidemment absolument passionnante, et vous l'avez dit, ce qui est absolument incroyable dans cette affaire, il n'y a aucune preuve, Patrick Tégéraud. Rien de rien contre Cédric Jubilard.
Et c'est pour ça que s'il en va au procès, ce procès sera lui aussi absolument passionnant.
Merci en tout cas. Laissez-vous tenter dans une seconde, la culture dans un instant. A tout de suite.
RTL Midi,
Céline Landreau et Pascal Pro. RTL,
laissez-vous tenter midi.
C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé.
Ça fait partie peut-être des 50 chansons que tout le monde connaît, 50 chansons françaises. Hein. C'est une maison bleue. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
La culture donc se met à table tous les jours dans RTL Midi et rencontre aujourd'hui avec Maxime, le forestier, un jeune chanteur. Il faut aider.
Chanteur qui publie, on a fini par trouver une date, c'est le nom de l'enregistrement de sa dernière tournée, un live dans lequel il revisite 50 ans de chansons. Steven, vous avez donc rencontré Maxime Le Forestier.
Et oui, le premier album de Maxime Le Forestier célèbre cet automne ses 50 ans. On y retrouvait San Francisco, mais aussi Mon Frère, La Rouille ou Éducation Sentimentale. L'artiste les interprétait toutes dans son tour de chant malicieusement baptisé. On a fini par trouver une date. Faut dire qu'il a quand même reprogrammé certains concerts 4 fois à cause de la pandémie. Qu'importe, le public a répondu présent pour applaudir celui qui montait sur scène pour la première fois sans sa guitare.
C'est un concours de circonstances. Une semaine avant le début des répétitions, je tombe de vélo et je me casse le coude droit. Donc c'était délicat de jouer de la guitare avec un plâtre. Mais j'avais 3 guitaristes, il y avait mon fils, il y avait Bruno Guglielmi et il y avait le grand Manu Galvin. J'ai commencé les répétitions avec le bras dans le plâtre et j'ai chanté. Quand on m'a enlevé le plâtre et que j'ai recommencé à jouer, j'avais plus de place. Les 3 guitaristes, ils avaient pris toute la place. Et en plus, moi j'avais pris goût à ne pas avoir à penser à ma guitare. J'ai trouvé que je disais les textes autrement.
Vous étiez concentré sur votre chant ?
Voilà. Ça m'a paru d'un confort et d'un bonheur que je n'avais pas connu. Donc j'ai continué comme ça. Et là, dans la tournée Brassens, ce que je fais, c'est pareil. Je ne joue pas de guitare. C'est marrant de découvrir ça à mon âge.
Je fais que passer ma route.
1995, passer ma route.
Ma vie seule.
Maxime Le Forestier présentait aussi des titres de son dernier album, Steven.
Oui, paraître ou ne pas être, paru en juin 2019, Maxime Le Forestier est en effet incapable de partir sur les routes sans inédit. Faire des chansons pour aller sur scène, cela a toujours été son credo.
Parce que je me suis aperçu il y a longtemps de ça que j'écrivais pas parce que j'avais quelque chose à dire, mais j'écrivais pour avoir quelque chose à chanter. Si j'ai pas l'envie d'aller sur scène, j'écris pas.
Parce qu'une chanson, elle prend vie devant un public, en fait, c'est ça ?
Oui, sans doute. Et puis, j'ai besoin d'avoir ce retour. Je me satisfais pas moi-même de ce que j'écris. J'ai besoin d'avoir une confirmation des gens.
Vous avez toujours été très sévère avec vos propres chansons. J'entends par cela que certaines de vos chansons, vous les virez.
Oui. Si je sens que le public accroche pas, je la vire. Je la déplace 2-3 fois dans le tour pour voir si ce serait pas une question d'enchaînement, de machin comme ça. Sinon, elle résiste pas. Il y a des dizaines de chansons comme ça qui sont mortes.
Et alors, est-ce que vous avez, avec le temps, trouvé ce qui plaisait aux gens, au public ? Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs ?
Des chansons qui supportent d'être repeintes. Chaque nouvelle tournée, je change les arrangements. Donc, c'est Brassens qui m'avait dit, quand j'étais allé le voir pour lui dire j'ai envie d'arrangements pour un orchestre et tout ça, il m'avait dit fais-le tout de suite, parce que moi je rêve de ça aussi, mais le public ne comprendrait pas. Et puis il me dit, mais de toute façon, une chanson, si tu te lèves à la fin d'un repas et que tu la chantes en tapant juste le rythme sur la table et que tu arrives à intéresser les gens, après les arrangements, tu fais ce que tu veux, quoi.
Qu'est-ce que tu besoin, moi donne-toi. J'y robe à pleurs, moi donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner. Tu fais tout kata kata dans mon laca.
En bas là-bas, immense succès de 1988, l'un des morceaux les plus connus de Maxime Le Forestier qui a bâti en 16 disques un des répertoires les plus populaires de la chanson française.
C'est un bonheur, c'est un privilège. C'est pas donné à tout le monde, je sais. J'aimerais que toutes mes chansons soient comme ça, mais c'est malheureusement impossible. La mémoire des gens n'est pas extensible. Et le cœur non plus. Ça me fait du bien, quoi.
Quand vous sortez de scène, vous êtes rempli de quelque chose, vous vivez sur un petit nuage.
Je suis surtout vidé quand je sors de scène.
Vous avez des petites habitudes en tournée ou pas du tout ?
J'arrive au théâtre à 18h, je répète, à 19h je m'endors.
Vous endormez ?
Oui, à 20h on me réveille, je prends un café au miel et à 20h30 je commence à chanter.
Donc il n'y a pas de trac ou d'angoisse si vous arrivez à dormir ?
Non, mais routine tue le trac, ou du moins l'endorme. Non, mais j'ai jamais avoué que j'avais le trac, ça ne veut pas dire que je ne l'avais pas.
choisit pas ses parents, choisit pas sa famille.
Maxime Le Forestier, qu'il évoquait tout à l'heure, il vient de reprendre la route avec une nouvelle tournée Brassens, Steven.
Son idole, il avait assuré ses premières parties en 1972 avant de le chanter en intégralité sur disque ou sur scène. On se souvient qu'il proposait au public de tirer au sort un numéro correspondant à une chanson de Brassens. Cette fois, il se replonge dans ses chansons avec un spectacle plus construit.
Brassens, c'est un vaccin contre la connerie. Il faut une cutie de rappel tous les 20 ans. Là, ça fait 20 ans que j'ai arrêté la tournée où on tirait au sort les chansons. Là, maintenant, j'ai construit un tour de chant. J'ai fait 500 concerts avec les chansons de Brassens. Pratiquement tous les soirs, je rencontrais des gens du public. À chaque fois, je leur demandais qu'est-ce qui vous a amené à Brassens. Et tous m'ont répondu, mon père, un oncle, un prof, quelqu'un avec qui ils avaient une relation affective. Aucun ne m'a dit c'est par la télé ou par la radio. Ça se transmet par l'affection.
Et vous, c'est par affection que vous le faites ? Il y a ce côté passeur aussi ?
Tout à fait, j'ai le sentiment d'être un passeur. L'affection que certaines personnes peuvent me porter sert à ça.
La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle
Maxime Forestier reprendra sa tournée Brassens dès le 8 janvier. Il sera à Paris à la Cigale du 11 au 14 mai. On a fini par trouver une date. Son nouveau live vient de paraître avec cette reprise de Brassens, la maîtresse d'école.
C'est formidable de l'écouter. Il y a de la tendresse, de la gentillesse, de la bienveillance.
J'adore cet homme. Ma maman est fan. Je l'embrasse.
Mais c'est...
Nous aussi, on embrasse votre maman, Steven.
Son caractère est...
Pas Pascal, apparemment.
Mais elle s'appelle Pascal, ma maman, d'ailleurs. Tiens.
Elle s'appelle Pascal.
Oui, elle a un joli prénom.
Bah, évidemment. Mais c'est une des raisons du succès de Le Forestier, sa personnalité.
Bien sûr. Et cette écriture, quand même, incroyable. Il n'a jamais dévié de son style, aussi.
La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot.
Les infos, à 13h, le foot, avec Jean-Michel Rascol. Est-ce qu'il faut jouer toute la Coupe du Monde toujours en hiver, maintenant ? Et oui, parce que c'est bien l'hiver finalement. En général, c'est bien l'hiver, mais pour le foot, c'est pas mal. À tout de suite.
RTL Midi.